Alors bonjour, donc voilà Pierre-Laurent Cassière, c'est moi qui ne vous ai pas fait écouter de résonance hier soir. J'en suis désolé, problème technique, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envisagé une petite sélection de travaux. Certains ont 2 ans, certains sont des projets en cours. Ils ont été, là je les ai sélectionnés par rapport aux notions en fait, de résonance et d'ubiquité. Voilà, pour essayer de coller un peu au thème du site et de l'espace. Ce matin, j'en avais parlé un petit peu hier soir, Peter nous a fait écouter des extraits de la pièce d'Alvin Lucier. Donc, je vous fais écouter juste quelques bribes. On a fait un remake en fait, de cette pièce l'année dernière, parce que je travaille avec un collectif d'artistes à Nice qui s'appelle Diligence. On a un grand atelier là-bas avec une énorme réverbération. Et donc le premier travail sonore que j'ai proposé en fait au groupe, c'était que en fait j'avais traduit le texte de Lucier en français et je l'ai recontextualisé un peu les phrases pour que ça soit plus je mais nous. Et puis on l'a lu ensemble en fait à plusieurs voix. Et puis après je suis resté seul dans l'espace pour le rediffuser pendant la nuit pour trouver les fréquences résonantes de l'espace.
Nous sommes assis dans une pièce.
Vous-même êtes peut-être dans cette pièce maintenant, ou peut-être dans une autre.
Nous enregistrons le son de nos voix, comme sans un texte, et nous allons le rejouer dans l'espace encore et encore,
jusqu'à ce que les fréquences résonantes de cette pièce se renforcent elles-mêmes.
Et que le langage devienne acrobatique.
Ce que vous allez entendre sera l'ensemble des fréquences naturelles de résonance de l'intérieur de la pièce, articulées par nos paroles.
Nous ne voyons pas tellement cette activité comme la démonstration d'un phénomène physique,
mais plutôt comme une rencontre avec l'acoustique de notre espace de travail.
Passant par l'élimination de toutes les irrégularités sonores que pourrait contenir notre discours.
Donc voilà, donc là c'était donc l'enregistrement pur, la prise de micro de nos voix en direct dans le lieu. Donc on s'est relayé pour lire chacun une partie du texte et en fait on était placé en différents endroits de l'espace, ce qui faisait qu'en fait les résonances n'étaient pas exactement les mêmes selon les personnes qui parlaient. Donc je vous passe le début de la seconde émission. On avance un petit peu, là on est à la fin de la troisième. Ouais, très rapidement, effectivement, les fréquences résonantes se révèlent. Finir par des fréquences pures pratiquement. Alors ça s'écoute plutôt au calme normalement. Bon là on est un petit peu pressé donc voilà. Juste pour donner une idée. Alors en fait c'était comme on l'a énoncé en fait dans le texte qu'on a lu, c'est que effectivement c'est pas pour montrer un phénomène physique qu'on fait ça, c'est une rencontre avec l'acoustique de notre espace de travail. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai en fait trouvé avec ce moyen j'ai trouvé les fréquences résonantes du lieu. Je les ai ensuite utilisées pour différentes installations sonores, de manière à ce que les dispositifs sonores soient vraiment, on peut dire, accordés avec l'acoustique de l'espace. Donc j'utilisais en fait ces fréquences résonantes que je diffusais dans le lieu avec des systèmes, il y a eu différentes choses. Là j'ai un petit extrait simplement du dispositif d'illisonance que j'avais proposé au mois de janvier cette année, pour une exposition qui s'appelait Édition et papier peint, où en fait une énorme structure en bois, qui est le noyau dur en fait, du projet collectif, était habillé avec des petits fils de laiton et un réseau de fils de laiton et au centre duquel était placé un microphone piezo, un micro de contact. Et en fait, je récupérais ce signal dans mon ordinateur qui, lui, en fait, filtrait le signal qui arrivait donc de la structure en bois et en métal. Il récupérait toutes les vibrations de cette structure et il les filtrait donc avec simplement des filtres résonants, uniquement sur les résonances du lieu. Donc là, j'ai pas le son tel qu'il était diffusé dans l'espace, par contre, j'ai un enregistrement en sortie de table. Ça fonctionne à peu près comme un vocodeur. Ce qui se passait, c'est que les filtres étaient chacun autonomes et montaient et descendaient de manière aléatoire, ce qui fait qu'en fait les fluctuations harmoniques changeaient en permanence. Et le système était bouclé sur lui-même en feedback, puisque les deux gros speakers qui étaient placés dans l'espace refaisaient vibrer la structure en retour, qui de nouveau réinjectait les vibrations dans le dispositif, donc c'était filtré sans cesse, donc le son ne s'arrêtait pas. Et les gens étaient au milieu et en fait ils utilisaient la structure en bois puisqu'il y avait dessus des livres qui étaient posés ou des éditions d'artistes que les gens étaient invités à consulter. Donc de fait, eux, ils rentraient un moment dans le système puisqu'ils allaient générer de fait des vibrations dans la structure. Alors ils ne savaient pas en fait qu'ils étaient actifs dans le dispositif sonore. Et surtout, ce qui m'intéresse pour là, ça a été le retour qu'on a fait, à savoir des gens qui venaient me demander... qu'est-ce que tu as fait dans cette exposition? Je disais, l'installation sonore. On me disait, mais c'est où? Elle est où, l'installation sonore? Et en fait, on était tous dans un champ de fréquence très très fort, en permanence, et c'était tellement présent et permanent que les gens ne se rendaient même pas compte qu'il y avait du son. En fait. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis intéressé à la notion d'ubiquité. Donc un son qui arrive tellement de partout qu'on n'y prête presque plus attention. En fait. On ne se rend plus compte de sa présence. Il y a une œuvre que j'ai un peu analysée cette année qui m'a intéressée à ce sujet et je pense qu'elle rentre bien en résonance enfin, avec les recherches de Locus Sonus. C'est une pièce qui a été montrée en 2001 au pavillon nordique à la Biennale de Venise, qui a été réalisée par Carsten Holler et Myriam Backstrom. Et en fait, c'était un dispositif très simple. Donc le pavillon, ils avaient demandé à ce que le pavillon nordique soit ouvert sur deux côtés. Donc ça faisait une espèce de grande dalle en ciment avec un bâtiment dont voilà, deux bords étaient grands ouverts sur les jardins, sur les giardini de Venise. Et ils avaient quatre micros directionnels en fait, qui étaient placés à l'extérieur du bâtiment et qui étaient braqués vers les allées en gravier. Et en fait, ce qui se passait, c'est quand on traversait l'espace, on entendait les bruissements de gravier dans l'espace, mais on les entendait d'une manière un peu étrange. Alors la plupart des gens ne se rendaient pas compte en fait, qu'il y avait un dispositif sonore qui était installé là. Mais si on restait un peu attentif et qu'on tendait l'oreille et qu'on y restait un moment, on se rendait compte qu'il se passait des choses assez curieuses, c'est qu'en fait, c'était impossible de dire d'où venait le son. On entendait ce bruissement de gravier, on voyait les gens marcher dans les allées sur le gravier, mais c'était un peu bizarre. C'est-à-dire qu'au départ, on se dit, mais c'est bizarre, est-ce que c'est l'acoustique de ce volume qui fait que j'entends ça comme ça? Et en fait, simplement, il y avait les micros qu'on ne voyait pas, qui étaient très discrets, étaient en fait filtrés et amplifiés très légèrement, et les haut-parleurs étaient placés au plafond. Donc la position verticale de l'émission sonore, les speakers qui émettaient par le plafond vers le sol, permettent en fait de casser la localisation naturelle qu'on a vu la position de nos oreilles, puisque donc les sons qui arrivent à l'horizontale sont bien plus faciles à localiser que les sons qui sont sur le plan zénithal. Donc là, Carsten Holler et Backstrom avaient joué de ce phénomène, en fait, et eux proposaient quelque chose qui, disaient-ils, on demande aux gens simplement, on veut que les gens entendent un tout petit peu plus que d'habitude. Voilà. Alors en fait, on entendait un peu plus, c'est vrai, mais on entendait surtout différemment. Et alors là où je pense qu'il y a des relations avec Locus Sonus, c'est qu'on avait cette idée de délocalisation, même si là, elle était très très courte, un peu comme vous avez fait hier soir avec le micro à l'extérieur et donc la réception qu'on avait ici. À la différence que là, on entendait le son réel du gravier en même temps qu'on entendait son amplification dans l'espace. Donc ça créait encore un peu plus de troubles ubiquitaires, on ne savait plus d'où venait le son. Il y avait aussi cette notion de synchronicité ou de temps réel, qui là n'était pas numérique, mais on avait effectivement un événement qui était à deux endroits en même temps. Donc une captation et une émission en même temps en direct. Alors là où la notion d'ubiquité m'intéresse, c'est qu'il faut faire la différence entre le don d'ubiquité, donc qui va être la possibilité pour quelqu'un ou pour un narrateur, par exemple, en littérature, d'être partout, ou d'avoir un œil sur tout en même temps. Et puis, il y a l'effet sonore d'ubiquité, qui, lui, va être... finalement, ça va être le son qui va être ubiquitaire, c'est-à-dire le son qui est partout en même temps. Bon, en vrai, il n'est pas partout en même temps, mais c'est la réception ou l'effet de perception qu'on en a. On a l'impression que le son est partout, simplement parce qu'on a du mal à le localiser. Et je pense que cet effet ubiquitaire existe également dans la société contemporaine par l'utilisation des médias, notamment par le pouvoir, en fait. On a comme ça un flux d'informations permanent qui grossit, et on finit en fait par l'espèce de présence permanente de flux comme ça informationnel, on finit par perdre les sources en fait. On ne sait plus trop d'où ça vient, et puis finalement c'est pas trop grave. Et donc je pense que ça représente une forme de danger quelque part. Et j'avais écrit un petit texte cette année où je faisais un parallèle en fait entre ce dispositif de Carsten Höller et de Backstrom à Venise et le dispositif de contrôle du panopticon de Bentham, donc je pense que tout le monde connaît ici, donc où il y a une tour centrale avec un seul gardien qui va pouvoir regarder en fait potentiellement, en tout cas tous les détenus qui sont autour. Donc cette espèce d'œil ubiquitaire qui n'est pas le gardien n'est pas partout, mais il y est potentiellement. Et je pense que la société aujourd'hui utilise, par exemple, comme on voit le fourmillement de caméras de surveillance qui arrivent un petit peu partout, ça pousse. Et alors elles sont un peu partout, et ce qui est assez troublant, c'est que finalement elles sont un système de contrôle qui est lui aussi un contrôle potentiel, parce qu'on ne sait pas si elles sont branchées, ces caméras, en fait. Et quand bien même elles ne le seraient pas, elles ont une fonction. Elles ont une fonction parce qu'elles existent, on les remarque, elles sont là, et elles sont potentiellement utilisables. Mais là, c'est pareil, on ne sait pas qui est derrière, on ne sait pas qui regarde. Donc, par rapport à cette idée de relation entre le... Pour revenir à un plan acoustique, la relation entre la résonance et l'ubiquité, Peter a parlé ce matin des sons qu'utilise la Monte Young dans les Dream House. Donc, tu n'as pas voulu nous les faire écouter. Moi, je vais en faire écouter un petit peu, rapidement. Donc j'utilise en fait, c'est pas un enregistrement de la Monte Young, pas du tout, c'est très simple, c'est deux générateurs de fréquences, mais qui sont pitchés ensemble, enfin qui sont détunés, donc avec le même écart que lui, il utilise dans ses installations. Alors donc, comme vous l'a précisé Peter ce matin, vous pouvez, moi je vous conseille de ne pas bouger la tête pour écouter d'abord le son tel qu'il existe, et puis après de bouger, et vous allez voir que ça change. Expérience courte. Alors il y a effectivement aussi, j'ai fait des expériences cet été avec des jeunes, et on était dans un espace assez petit, et on se mettait dans le noir, on diffusait des sons comme ça, et puis chacun notre tour, on se mettait au milieu du lieu, les autres ne bougeaient pas, fermaient les yeux, il y en avait un seulement au milieu de l'espace qui se mettait à bouger, et les autres écoutaient comment ça modifiait leur perception. Alors là pour moi il y a deux choses intéressantes là-dedans, c'est que d'abord cet effet, on a seulement ici deux sources sonores, donc les deux haut-parleurs qui vont chacun émettre une fréquence. Bien sûr, le système ne fonctionne pas si on émet les deux fréquences sur un seul haut-parleur. Ça joue avec les réflexions acoustiques, et donc en fait, l'effet fonctionne partout dans l'espace. L'effet, c'est un effet acoustique, mais qui va être présent, qui va être ubiquitaire, qui existe à tous les endroits de l'espace. Donc on peut se cacher dans un coin et bouger la tête, on aura aussi l'effet qui fonctionne. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que chacun à sa place va avoir une perception différente. Et quand on est dans une écoute collective et qu'on bouge, on s'en rend compte assez vite. C'est-à-dire que chacun fabrique son écoute, en fait. Chacun opère des choix dans son écoute, et la manière dont il va bouger son corps va déterminer ce qu'il écoute, ce qu'il entend. Donc là, il y a quelque chose, moi, c'est plus des questionnements théoriques, en fait, sur voilà, est-ce que c'est une forme de liberté de l'écoute, par exemple, de proposer à des gens, de selon comment ils sont placés dans l'espace, ils vont entendre différemment. Un mot peut-être par rapport à cet effet. Donc il y a un effet très proche qui s'appelle l'effet Tartini, en fait, d'un compositeur du XVIIIe siècle, qui est en fait ce même effet. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on utilise deux fréquences, il va y avoir une troisième fréquence qui va émerger, qui sera la différence entre ces deux fréquences. Et lorsque ça se passe en harmonie, on parle d'effet Tartini. Et cet effet est utilisé aujourd'hui par l'armée. Ils développent des armes à ultrasons qui génèrent deux ultrasons, et dont ils, deux ultrasons qui sont bien sûr de fréquences différentes, et de manière à générer une illusion sonore. Et l'illusion sonore va être exactement la différence qu'il y a entre ces deux fréquences pures en ultrasons, donc qui sont imperceptibles. Et la différence, elle, va être perceptible, mais va être perceptible uniquement dans les têtes, en fait. C'est pas... Le son n'est pas émis en soi dans l'espace, ce n'est qu'une interférence de deux ondes. Et comme c'est des espèces de canons à ultrasons, et comme les ultrasons sont hyper directionnels, eh ben on peut viser comme ça et envoyer une illusion acoustique sur quelqu'un. Alors, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant d'un point de vue physique, physiologique, et quelque chose d'extrêmement dangereux en même temps, voilà, d'un point de vue social ou d'un point de vue de contrôle et de pouvoir. Donc c'est des choses qui ne sont pas du tout drôles, et pas du tout, c'est très sérieux, des recherches là-dessus, et ça se développe. Et alors ils poussent le bouchon jusqu'à générer en fait, des illusions acoustiques qui vont être placées dans les infrabasses. Donc il se passe des battements au niveau des connexions nerveuses dans le cerveau, où on a l'impression de recevoir un son qu'on ne peut pas entendre, mais qu'on ne reçoit pas. Donc ça crée des troubles en fait, physiologiques très, très forts. Voilà, ça, des vomissements, des maux de tête qui durent des jours entiers, etc. Voilà, il y a une partie de mon travail qui s'intéresse à la matérialité du son, à sa physicalité et à son impact sur les corps, et à la manière dont il va pouvoir modifier le déplacement ou le comportement d'un corps dans un espace. Peut-être un petit exemple par rapport à la notion de sympathie que tu as évoqué ce matin aussi. Donc là, pas d'un point de vue acoustique, mais d'un point de vue en fait, de plus vibration mécanique. C'est quelque chose que je voulais présenter hier soir, que malheureusement, ça a mal tourné. Donc ici, j'avais trouvé deux ou trois fréquences qui réveillent vraiment des fréquences sympathiques dans l'espace ici de l'amphi. Donc... Donc là, normalement, si tout va bien, il y a une fenêtre ou une porte qui doit vibrer par là-haut. Voilà. Donc là, on a bien une fenêtre, ou je ne sais pas si c'est la porte ou la fenêtre, la porte. Et donc... Elle répond à des sons qui arrivent d'ici, enfin surtout du caisson de basse qui est derrière moi. Et à distance, par le biais de l'acoustique et par le biais des ondes acoustiques ici, je vais pouvoir moduler légèrement le son émis par la porte. Il ne faut pas l'ouvrir. Hein. Ah, trop tard. Ouais, s'il vous plaît. Ouais, j'arrête alors. Enfin voilà, donc c'est une petite illustration assez courte. J'avais monté il y a deux ans pour mon diplôme à la Villa Arson un dispositif qui fonctionnait sur ce principe de fréquences sympathiques, et qui en fait, il y avait 15 fréquences différentes qui étaient émises de manière plus ou moins aléatoire par un subwoofer, un caisson de basse fréquence, et qui, en fait, réveillait des résonances dans différentes parties de l'architecture. Donc ça permettait, en utilisant une seule source, d'avoir des effets localisés en différents endroits de l'espace. Donc là aussi, c'est une forme d'ubiquité qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a une source et qu'on va avoir des effets à différents endroits, parfois en même temps. Donc effectivement, le son, c'est clairement, je pense, le médium du déplacement, de la vitesse, de l'air et de l'espace. Donc voilà, comment montrer cette physicalité du son à un moment donné? C'est des questions qui m'intéressent beaucoup. Je voulais vous montrer aussi par rapport à la relation aux médias, en fait, de cette ubiquité médiatique. Moi, je me suis posé une question, bon, qui venait aussi en même temps de qu'est-ce que c'est une pratique d'improvisation. Alors, je suis parti de l'idée que pour faire une vraie improvisation, il fallait que la situation d'improvisation elle-même soit improvisée. Autrement dit, qu'on n'est pas prévu de faire une improvisation. Et puis, je me suis demandé quel était le média avec lequel des gens, donc pas prévenus, pourrait improviser. Et donc j'ai commencé un travail sur une espèce de piratage téléphonique où en fait j'appelais des gens au hasard et ils se retrouvaient en communication avec un programme informatique qui avait strictement rien à leur apprendre, qui comportait aucun message et qui se contentait de leur répéter ce qu'eux-mêmes disaient. Donc vous recevez un coup de fil, vous décrochez et puis vous dites allô et puis ça vous répond allô, mais c'est votre voix. Et puis, enfin, un peu bidouillée parce qu'elle est partie, elle est revenue. Et donc, ça crée une situation bizarre. Voilà. Alors, c'est un projet avorté, ça a commencé, je ne l'ai pas mené jusqu'au bout. Parce que justement, pour des questions de protocole, en fait, moi, je m'étais fixé comme protocole que d'abord, j'appelais des numéros a priori au hasard. Bon, j'ai fait aussi avec des amis pour voir, mais j'appelais au hasard des gens que je ne connaissais pas. Et le protocole, c'était « c'est jamais moi qui raccroche ». Donc voilà. De toute façon, je ne pouvais pas intervenir dans le système, il était bouclé sur lui-même, ça restait médiatique. Donc il y avait juste de l'information qui circulait entre deux ordinateurs, il y en avait un qui était connecté à Skype et l'autre qui avait le programme sonore. Donc les deux ordinateurs communiquaient et via Skype appelaient sur des téléphones portables. Donc il y avait juste une entrée en fait, c'était un système de communication avec une seule entrée, donc ça devenait complètement débile, c'était plus du tout la communication. Et donc, bon, il y a eu beaucoup d'échecs, puisqu'évidemment, les gens raccrochent très vite. Bon, ça ne marche pas, j'entends rien, clac. Donc, il a fallu faire beaucoup de choses pour avoir un peu des idées de résultats ou des pistes de travail. Et puis, je me suis arrêté assez vite, parce que je me suis rendu compte que c'était finalement une pratique que je n'avais pas envisagée aussi violente. Voilà, il y avait des réactions qui étaient parfois un peu troublantes. Donc, je vous fais écouter juste quelques extraits. Là, c'est en stéréo, donc il y a un côté qui parle, un côté qui écoute, comme un téléphone.
Allô? Oui, allô? 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 Je n'entends rien. Allô?
Voilà, alors il y a en plus, parce que je voulais que ça sonne vraiment comme une machine bizarre, donc j'avais simplement des fiddles, enfin des objets qui font des reconnaissances de fréquences et qui généraient des fréquences dans la bande passante du téléphone de manière à ce qu'il y ait des espèces de sons comme ça, des espèces de sifflements en fond qui correspondent à rien. Un autre monsieur donc, qui. Je vais avancer un peu.
Allô. Désolé, j'entends rien.
Donc lui, je l'ai rappelé.
Allô. C'est pas possible, on a fait comme ça. Allô.
Bon, lui, il était pas content. Alors là, il y a un ami que j'ai appelé, en fait, mais je n'avais pas du tout parlé du projet, il ne savait pas du tout de quoi il s'agissait ou qui était à l'origine de cette chose. Par contre, lui, il a reçu la chose d'une manière très positive. Donc, là, ça dure 2 minutes, donc je ne vous le fais pas écouter entier, mais juste pour que vous ayez une idée.
Allô. Allô.
C'est génial.
Allô. 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 C'est excellent. Non, je trie. Allô.
Bon, alors ce qui est curieux, c'est que lui-même, il trouve ça intéressant, il trouve ça marrant, mais il dit rien d'autre que allô. Voilà, il n'a pas du tout envie d'essayer le dispositif ou de voir ce que ça peut sortir d'autre. Alors il dit allô, allô. Et je sais pas, c'est un son aussi, moi, je sais pas, ce terme, enfin ça existe dans toutes les langues, mais cette espèce de mot qui veut rien dire, qu'on dit quand on décroche le téléphone, c'est un truc assez curieux, quoi. Et donc là, moi j'ai des suites de allô, allô sur des enregistrements, il y a que ça, allô, allô, alors il se passe rien, ça brasse du allô, ça veut rien dire, il y a aucun message, il y a rien, il y a pas de données, il y a pas de contenu. Aucune information en fait tangible ou utile qui passe. Et alors là, bon, après il fait écouter un ami à lui qui dit aussi allô. Alors il y a aussi ça arrive souvent, on tombe sur les messageries de portable.
(88 06 67). Merci de laisser un message après le bip sonore.
Je reprécise une fois que je joue pas en fait, moi je touche à rien, c'est complètement automatisé, j'ai aucune entrée dans le système, je peux rien faire, donc c'est voilà, c'est fermé, ça réagit comme ça. Et alors donc un extrait, cela c'est long, le dernier enregistrement, voilà, de ce projet, parce que je l'ai pas amené plus loin, en fait c'est cet enregistrement là qui m'a convaincu d'arrêter de jouer en fait avec ça. C'est qu'en fait j'ai appelé sans le savoir une jeune fille. Voilà, j'ai trouvé ça assez violent en fait, ce qui se passait comme situation.
Allô? 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 Allô?
Bon, et là en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça dure pendant presque 3 minutes. Elle dit allô, puis elle écoute un bruit, puis elle répète allô, allô, et on sent une. Qu'elle a envie, quoi. Qu'elle a envie de communiquer, qu'elle aimerait bien qu'il y ait quelqu'un qui l'ait appelé vraiment, elle aimerait bien parler. Et on sent dans sa voix qu'elle est vachement déçue. Et en fait, moi, je me sentais un peu comme un con, que j'étais devant mon ordi, que je ne pouvais pas rentrer dans le système et qu'il y avait cette gamine à l'autre bout qui attendait un truc, en fait.
Allô ?
Et comme je m'étais fixé comme protocole, et donc là, pour le coup, je n'ai pas changé le protocole, je m'étais fixé comme protocole que ce n'était jamais moi qui raccrochais. Du coup, j'ai poussé le truc jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle raccroche. Mais c'était, puisque moi je l'écoutais au casque en direct, c'était, pour moi, c'est un moment en fait où je me posais des questions un peu sur avec quoi j'étais en train de jouer en fait, et que finalement c'était socialement très violent ce que j'étais en train de proposer.
Allô.
Enfin, là, bon, ça dure encore le double de temps. Pardon. Que c'est violent. Ouais, moi c'était pas. Oui, mais parce que moi ça vient d'une idée comme ça qui est presque cybernétique ou du jeu, de l'expérience. Ça arrive à mon tien et si j'essayais ça, puis on essaye et puis en fait on se rend compte qu'on manipule un truc, une petite bombe sociale quoi. Mais du coup ça me permet d'envisager autrement aussi. Enfin voilà, qu'est-ce que c'est un téléphone, quel rapport on a à cet objet, etc. J'ai encore un peu de temps. 5 minutes. Bon, donc va falloir sabrer. Bon, alors il y a une vidéo que je voulais vous montrer, donc vous pouvez y accéder par Locus. Non, j'en remonte un petit bout quand même, parce que c'est pas souvent que j'ai l'occasion d'avoir un système audio comme ça, donc quand même. Donc sur l'idée donc en plus ça tombe bien parce qu'elle a montré ses sonotubes avant. Donc voilà, moi c'est un énorme sonotube. Là il fait 700 mètres de long en fait. Bon, je vais la vidéo dure presque 5 minutes, donc je vous passe le début en fait. Il y a une espèce de mise en rythme comme ça où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et puis bon, là je vais en revenir directement au fait. Alors, mon putain de lecteur. Alors, il y a deux bouchons comme ça en plastique, il y en a un à chaque bout, et ça fait 700 mètres le bazar. Alors en fait, l'onde. Enfin, je laisse. Bon, en fait, je galère un peu parce que je suis tout seul avec ma caméra et j'essaie de la fixer, mais ça tient pas. Et puis, du coup, je décide de la garder dans la main. Et maintenant j'ai un micro à l'intérieur. Ça dure 5 minutes, vous pouvez la regarder, elle est quelque part en ligne. Ça c'était une rencontre en fait, au bord d'une autoroute que je traversais toutes les semaines pour aller en cours. Puis je voyais des gars qui construisaient un tuyau comme ça en métal super long. Et puis à chaque fois, toutes les sections étaient désassemblées les unes les autres. Puis un jour, je suis passé, puis il y avait une section entre deux ponts d'une portion d'autoroute sur 700 mètres. Ils avaient tout assemblé et ils avaient fermé les deux bouts. Donc voilà, j'ai posé ma voiture avec les warnings sur le bord de l'autoroute, puis je suis allé taper là-dessus, voir ce qui se passait. Et alors c'était marrant parce qu'en tapant la première fois, j'étais surpris qu'il ne se passe rien. Parce qu'il y a un délai de 4 secondes avant que l'onde revienne. Puisque ça parcourt 1,5 km en fait avant de revenir. Et donc l'onde fait 4 allers-retours à l'intérieur, donc elle parcourt entre 6 et 7 km. L'onde acoustique. Alors là, ce qui m'intéresse, je parlais tout à l'heure de plasticité du son, de physicalité. Là, effectivement, on voit que l'onde a un choc. Quoi. C'est une onde acoustique, mais qu'elle est encore puissante, même quand elle revient. Je voulais vous montrer un petit noise system. J'enverrai des liens vers la boîte, vers Dropbox, d'un petit travail de terrorisme sonore, en fait, où j'ai un système audio autonome que je transporte sur mon dos. Quelques petites images là-haut. Enfin voilà, c'est filmé n'importe comment. C'est un copain qui a tout filmé avec un appareil photo. Il l'a tenu dans le mauvais sens. Donc je suis toujours à l'horizontale. Mais Donc ça c'est le bordel que génère le système audio que j'ai sur le dos. En fait, ça se charge en permanence avec les bruits ambiants, avec tous les bruits urbains, et puis ça les rebalance en les amplifiant. Donc, plus je suis dans un endroit bruyant, et plus je suis moi-même bruyant. Et alors là, par rapport à la... du calme, Anne. Par rapport à la notion d'ubiquité, ça marche assez bien, parce que d'abord, je suis une source sonore mobile. Et en plus, j'ai rajouté de la réverb sur tous les sons. Donc en fait, ça travaille comme une espèce d'espace sonore fictif dans un espace sonore réel. Et cet espace sonore fictif, vu qu'il a une réverb numérique intégrée, bah, ça sonne comme si l'espace était plus grand que celui dans lequel on est, ou en tout cas s'il avait une autre forme. Donc ça crée des situations où les gens en fait, regardent autour et ne savent pas du tout d'où ça vient. Quoi. Alors, je fais ça dans les magasins. Alors, je charge le système audio avec la musique horrible là, qui nous diffuse à l'intérieur pour qu'on consomme plus. Et puis ça leur rebalance ça à l'envers à l'intérieur. En général, ça finit mal. Voilà, ça finit toujours avec les vigiles en fait qui me foutent dehors. Pour finir, alors le dernier, un travail, donc un projet en cours sur donc c'est beaucoup plus soft. Est-ce que j'ai le c'est où c'est ça. Donc c'est un travail que j'ai commencé en fait au mois de septembre puisque donc j'ai été sélectionné cette année pour un concours de l'art sonore en Allemagne et le musée m'a demandé de faire une proposition d'installation in situ. Donc, j'aurais soumis une proposition qui n'a pas été sélectionnée. Et donc, quand ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais montrer à l'expo comme installation, j'aurais dit que l'installation que je voulais faire n'était pas reçue, donc que je n'allais pas en proposer une autre, que par contre j'allais proposer un travail pour écouter les installations sonores des autres artistes. Et c'est comme ça qu'est né le projet du casque de désorientation. Donc là, c'est le premier prototype. C'est un système très très simple. Là, au fur et à mesure des prototypes, ça va se complexifier sur vraiment modifier l'oreille droite et l'oreille gauche, inverser, avoir le son qui est capté que à l'avant ou que à l'arrière, etc. Donc là, ça c'était la semaine dernière en fait à Cologne pendant la foire d'art contemporain, donc sur l'exposition Sound Art. Le piano, c'est pas moi, c'est trop bien. Juste non, quelques images, vite fait. Voilà, parce que bon, donc en fait, il y en a quatre dans l'espace d'exposition. Donc les gens les mettent sur leur tête et se baladent avec ça. Alors évidemment, ça modifie complètement leur attitude. Bon, enfin voilà. Et donc ça, bah là, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est donc on parlait hier de sons, de ne pas émettre des sons en fait, de travailler avec les sons qui sont déjà là. Donc moi, ce que je propose simplement, c'est deux cônes acoustiques qui vont un peu sélectionner dans l'environnement sonore. Donc vraiment ce qui vient des côtés, puis ça va amplifier aussi toutes les hautes fréquences qui arrivent de ces directions-là. Et donc les gens, à partir du moment où ils se mettent ça sur la tête, sont de fait dans une situation d'écoute, dans une posture d'écoute particulière. Et donc ils jouent, voilà, ils bougent et ils écoutent. Et ça m'intéressait aussi de... C'est pas souvent qu'on voit quelqu'un écouter, en fait. Donc c'est pas facile de voir quelqu'un qui écoute. Là, de fait, on les remarque. Voilà, merci.